20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esset monus petrinum eque administrandum.
Nous sommes le 11 février 2013. Un silence estomaqué règne dans une des salles du palais du Vatican. Les cardinaux, qui se sont déplacés pour un consistoire a priori banal, sont sous le choc. Benoît XVI vient d'annoncer sa renonciation au poste de pape et d'évêque de Rome. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien, a-t-il déclaré devant une assemblée médusée. Même son propre porte-parole, le père Federico Lombardi, avait été tenu à l'écart de cette décision. Les catholiques du monde entier sont sonnés. Un pape qui démissionne, c'est une première dans l'histoire de l'Église moderne. Le dernier à avoir renoncé s'appelait Célestin V et il avait abdiqué il y a 7 siècles. Quelques jours plus tard, Benoît XVI s'adressera aux prêtres de son diocèse. « On va rester très proche dans la prière, mais on ne se verra plus. Je serai caché au monde », a-t-il dit, avant de s'envoler dans un hélicoptère blanc. Depuis, il n'a fait que de très rares apparitions. Portrait ce soir d'un homme de rigueur, de prière et de zone d'ombre, certainement fatigué, comme il le dit, par le poids de son âge, mais aussi par celui des affaires en cascade qui auront marqué son pontificat. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Caroline Pigozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions religieuses. Quel souvenir gardez-vous de cette annonce choc dont on va parler ce soir?
Une grande émotion, un grand remerciement au pape parce que c'était un lundi, donc on a pu traiter le sujet tout de suite.
Dans Match, oui.
Oui, donc je suis très reconnaissante. Et puis... pas une grande surprise parce que il l'avait comme ça un peu dit à Peter Sivald, qui est un journaliste qui avait écrit un livre sur lui, et que moi j'avais deux cardinaux qui m'avaient raconté des histoires très précises. Il était allé à Cuba et le cardinal de Cuba m'avait, qui j'avais un rendez-vous téléphonique parce que j'avais pas pu aller, m'avait dit que quand il avait vu Fidel Castro, qui avait le même âge que lui, qui était blanc comme une hostie, il s'est dit, est-ce que j'ai cette tête-là, on a le même âge, et que ça l'avait beaucoup frappé.
Mais il y avait des rumeurs qui circulaient?
Et non, ça c'est
parce qu'on a l'impression
chose.
Qu'il a pris tout le monde de court.
Après
quand même.
Après ça, il est allé au Liban en septembre. Et là, j'avais aussi un rendez-vous téléphonique avec le cardinal Béchara Boutros-Rahi, le patriarche maronite d'Antioche, et je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit, écoutez, on a eu un déjeuner avec le cardinal Sfer, avec le pape, et pendant tout le déjeuner, il demandait au cardinal Sfer, mais comment ça se passe quand on est deux, vous avez pris votre retraite, comment vous célébrez la messe? Enfin, il posait des questions, et je lui ai dit, mais pourquoi posait-il ces questions? Il m'a dit, écoutez, j'en sais rien, mais peut-être qu'il songe à se retirer.
Donc vous n'avez pas été surprise?
Pas du tout, je l'ai même écrit dans mon livre, ce qui m'a valu que le livre monte en flèche et soit dans les meilleures ventes.
En tout cas, tous les catholiques ont été scotchés par cette annonce, évidemment. Il se dit aussi qu'au Vatican, personne ne s'attendait, ou en tout cas c'est la version officielle, à cette annonce. Est-ce qu'il était vraiment épuisé, Benoît XVI?
Je crois qu'il était épuisé, il était déprimé, il n'y arrivait plus, il était traumatisé parce que son majordome avait vendu quand même...
On y reviendra.
Des journaux italiens quand même, des lettres, qu'il se disait, est-ce que j'ai un micro dans ma brosse à dents? Et puis, vous savez, il y a des événements collatéraux, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais il était très proche de sa sœur était morte quelques années avant, donc il s'est parlé à son frère George, qui était prêtre aussi à Regensburg. Il avait une de ces memores domini, c'est-à-dire les femmes qui étaient des laïcs consacrés, qui étaient à ses côtés, sa famille en réalité, qui s'était fait écrasé sur le parking peu de temps avant. Et les événements collatéraux d'un pape, on n'y pense pas parce qu'on pense qu'un pape, il ne parle qu'à Dieu. Mais la famille papale, les gens proches de lui, ça compte. Et il n'y arrivait plus. D'ailleurs, son secrétaire particulier, Mgr Gunschwein, quand il est parti à Castel Gandolfo, s'est dit le premier mois, mais est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce que, parce que, je veux dire, on peut aussi être, avoir une dépression quand on est un pape. C'est un vocabulaire qu'on n'emploie pas, mais c'est une réalité.
On reste humain lorsque l'on est souverain pontife. Alors, qui était Joseph Ratzinger avant de devenir le 265e pape de l'histoire? De son enfance enrôlée de force dans les jeunesses hitlériennes, on y reviendra au Vatican, où son pontificat aura duré 8 ans. Et puis, comment a-t-il fait face aux différents scandales qui ont secoué l'Église, des affaires de pédophilie à l'affaire Vatilix? Nous sommes ensemble pendant une heure sur RTL. À tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce sera évidemment une édition spéciale d'RTL Midi. Cette information qui a stupéfié les catholiques du monde entier en fin de matinée. Le pape va démissionner.
Voilà, on revient ce soir dans Jour J, vous l'avez compris, sur la renonciation du pape Benoît XVI. Nous sommes le 11 février 2013. L'information fait la une du monde entier. Caroline Pigozzi, vous êtes notre invitée jusqu'à 21h. Démissionner, ça n'est pas le terme exact. On parle de renonciation quand il s'agit d'un souverain pontife.
Oui, parce qu'il renonce, en fait, il renonce à sa charge pontificale, mais il ne, comme pape, il ne démissionne pas. C'est-à-dire que c'est un double langage latin. D'ailleurs, il y a eu plein de petites les mythes là-dessus. D'ailleurs, il est pape émérite, parce que quand vous êtes pape, vous êtes élu et c'est pour la vie. Donc, vous renoncez à votre charge, mais vous restez le pape.
Il renonce aussi à son poste d'évêque de Rome.
Oui, il renonce évidemment à son poste d'évêque de Rome. Il renonce à toutes ses fonctions officielles, enfin à toutes ses fonctions.
Alors, c'est une décision qui a quand même, je le disais, pétrifié, estomaqué les catholiques du monde entier. Si certains pouvaient s'en douter comme vous, qui l'aviez même, je dirais, prédit, c'est une décision qui semble unanimement saluée, tant par les officiels que par les anonymes. On parle d'un grand courage, on parle d'une certaine humilité, et on parle même d'une décision qui va moderniser une église vieillissante.
Oui, parce que les papes sont évidemment élus tard, parce qu'on devient cardinal tard. C'est une longue trajectoire. C'est pas d'ailleurs toujours une trajectoire d'ambition, parce que le cardinal Ratzinger n'était pas du tout ambitieux. C'était un homme qui aimait écrire, qui aime le calme, qui aime jouer du piano. Et donc on arrive tard, donc on règne tard, sauf Jean-Paul II qui a été élu beaucoup plus tôt, à 58 ans. Donc le chemin démarre finalement assez tard, c'est pour ça, donc c'est plus compliqué, enfin je veux dire, on prend des décisions, généralement un pape il y a 70, 75 ans, vous voyez. D'ailleurs maintenant, c'est tellement vrai, on est en train de regarder les cardinaux jeunes en se disant, au sein du Sacré Collège, en se disant non, et ceux-là ils n'ont aucune chance, parce que si on
ils
doit
sont trop
les subir pendant 30 ou 40 ans, c'est pas possible, il y a aussi ça, vous comprenez.
Je vois très bien, bah, on part pour en tout cas...
L'éternité,
voilà,
c'est très long.
Exactement, l'éternité. Il est d'usage quand même que les pontificats des papes s'éteignent en même temps qu'eux. Pourquoi ? On a vu les papes mourir, quoi.
En direct.
Mais c'est...
Est-ce que ce n'est pas le dernier univers où on est censé ne pas mentir ? Donc, si vous voulez, il y a deux choses. C'est très facile pour les journalistes d'écrire n'importe quoi sur le Vatican, sur l'Église, parce qu'il n'y a jamais de communiqué.
C'est vrai.
Donc, vous comprenez, vous racontez n'importe une chose sur un homme politique, dans les 10 minutes, vous avez un tweet et un communiqué. Vous dites une chose sur le pape, il n'y a pas d'explication. Il ne se justifie pas. Il se justifie devant Dieu et son dialogue est autre. En fait, c'est du caviar pour les journalistes. Vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Alors là,
c'est pour ça qu'il y a plein de rumeurs qui circulent aussi.
Ah ben, c'est très facile, parce que vous dites autour du Vatican, on dit que, et puis personne ne dira le contraire. Sauf que là, le pape a donné une interview. Actuellement, il a dit qu'il n'allait pas annoncer. Et puis, il y a d'autres techniques. Par exemple, là, ce pape, il a annoncé 3 voyages prochains. Donc,
Le pape François.
Donc, on se dit, s'il va mal, il n'annonce pas des voyages. Mais vous voyez, il faut à la fois créer l'événement, parce que Jean-Paul II créait l'événement tout le temps. Il était extrêmement médiatique. Il cherchait. D'ailleurs, si vous regardiez les messes, les gens autour de lui étaient très beaux, parce que c'était comme une scène. Les hosties étaient grandes comme des pizzas, pour qu'on les voit du bout des grands messes. Il y a toute
une mise en scène.
Et en même temps, il y a une sorte de loi du silence, parce qu'on ne se justifie pas.
Donc on ne se justifie pas, mais pour revenir quand même à la fin des pontificats, on a souvent assisté au naufrage de la vieillesse de certains papes.
Oui, parce que d'abord ils avaient une cour, et la cour elle est là, elle existe tant qu'il y a le pape. Et puis on a l'éternité devant soi. On se dit qu'on est là, si on doit souffrir, ça a été Jean-Paul II, à la
c'est
fin,
ça,
il allait très mal. Et il a offert, au fond, cette souffrance aux malades. Il n'y a pas que moi qui souffre, il y a les malades. Mais pour revenir à cette question, une chose qui est intéressante, c'est que le pape Benoît XVI a renoncé la journée mondiale des malades. Mm-hmm. Vous voyez, ce n'est pas un hasard non plus.
Et ça a été perçu comment, ça?
Ça a été en tout cas remarqué. Ça fait partie, vous savez, chaque détail compte. Et rien n'est laissé au hasard, je dirais, au Vatican.
Mais
jamais.
Est-ce que Benoît XVI voulait garder pour lui, justement, cette vieillesse qui nous avait été offerte par Jean-Paul II?
Je pense que Benoît XVI, d'abord, c'est un intellectuel. Donc, au fond, les médias, la communication, ça le faisait souffrir. Quand il était venu en France, je me souviens, dans l'avion, on a eu droit à 4 questions. Et à la 5e, il a fait comme ça, il tordait le nez.
Il ne voulait pas.
Il n'a pas besoin de s'exprimer, son dialogue, et ce n'est pas celui-là. Et il a été élu, il ne l'a pas cherché non plus, du tout.
On reviendra sur son élection.
Et donc, il a exercé sa mission avec beaucoup d'honnêteté jusqu'au moment où il ne pouvait plus. Il a une sorte de dépression. Et comme c'est quelqu'un de très honnête, il s'est dit, mais je ne suis plus en état de gouverner l'Église, j'arrête.
Donc, c'est un acte d'humilité et de courage.
C'est un acte, dans son cas, complètement.
En tout cas, c'est le 19 avril 2005 que le cardinal Joseph Ratzinger est devenu le pape Benoît XVI. Il a succédé à l'inoubliable Jean-Paul II. Alors pourquoi d'ailleurs Jean-Paul II, il a autant marqué Caroline Pigozzi?
D'abord, il est resté 25 ans et demi.
Ouais. Bon, oui, pour moi, c'est vraiment le pape d'une génération.
Et d'ailleurs, tous les prêtres aujourd'hui de Paris, c'est génération Jean-Paul II. Ensuite, il a inventé les JMJ.
Journée mondiale de la jeunesse.
Ensuite, il y a eu la tentative d'attentat, enfin l'attentat d'ailleurs, et bon, on a vu un pape à terre, il s'en est relevé.
Et il a pardonné.
Ensuite, il parlait toutes les langues. Ensuite, il a voyagé, il a fait 82 voyages. Ensuite, il avait un charisme, et puis c'est le pape, il était derrière le rideau de fer. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le premier pape étranger depuis des siècles. D'ailleurs, maintenant au Vatican, les cardinaux italiens et les prélats italiens disent « on nous a volé notre pape finalement, parce que ça fait 3 papes étrangers, pour eux ça suffit ».
Et Benoît XVI, effectivement, qui était d'origine allemande. Ben, on y reviendra dans un instant. On parle de tout cela donc ce soir dans Jour J jusqu'à 21h. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui vous emmène ce soir au Vatican. Nous sommes au printemps 2005. Depuis plusieurs jours, les regards du monde entier sont tournés vers le palais apostolique. L'information tombe le 2 avril, peu avant 22h sur RTL.
Bonsoir, Jean-Paul II est mort. L'information est officielle, elle émane du Vatican. Je vous lis la dépêche, cité du Vatican, le pape est mort.
Le pape Jean-Paul II meurt donc précisément à 21h37. Caroline Pigozzi, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste des questions religieuses. Est-ce que vous étiez sur place à la mort de Jean-Paul II?
Oui, bien sûr.
Parce qu'on s'y attendait tous.
J'étais sur place et je dînais avec un cardinal français, avec le cardinal Poupard. Et on était dans le restaurant et moi j'étais toujours avec mon cahier, mon stylo, parce que je n'enregistre rien, je suis très démodé. Et le maître d'hôtel est arrivé en pleurant. C'était un Saint Calliste, c'est pas loin du Vatican, et il a dit le pape est mort, il pleurait, et c'était tellement impressionnant parce qu'en fait il avait l'air pratiquement plus impressionné que le cardinal, parce que le cardinal s'y attendait, parce que
ça faisait plusieurs jours.
Il avait été mis de la culture du pape Jean-Paul II, donc tous ces gens-là sont quand même hautement renseignés, comme on dit au Vatican, tandis que le maître d'hôtel, il ne savait pas très bien où ça en était, donc il était, mais effondré.
Et comment, justement, était Rome ce soir-là
Incroyable. C'est-à-dire que moi, je suis parti place Saint-Pierre, immédiatement. Tout le monde priait, c'était incroyable. Et je me souviens, il y avait un monsieur qui était à côté de moi, qui était sorti, qui avait son chien dans les bras et qui m'a dit « Je suis désolé s'il aboie, mais j'ai emmené mon chien parce que je ne pouvais pas le laisser seul, il est de mauvaise humeur. Ben, il va prier avec moi, après tout, c'est une créature de Dieu aussi. » C'est-à-dire que c'était incroyable. Toutes les générations, tout le monde, c'était bouleversant.
On parlait il y a un instant de la lente agonie de Jean-Paul II à laquelle on a tous, d'une façon ou d'une autre...
C'était horrible.
Assisté, voilà, c'était gênant.
Oui, pour des journalistes, on avait l'impression de mettre le stéthoscope à côté de lui. Enfin, c'était une chose horrible et douloureux. Et en même temps, il faut faire notre métier, donc il faut raconter. Mais...
Et puis, vous l'avez connu, vous, vaillant.
Moi, j'ai connu resplendissant. Pour Match, on a fait des choses extraordinaires avec lui, des sujets incroyables. dans son appartement, chez lui, derrière, dans la papa mobile. Il nous a permis, parce qu'il aimait la communication, et il aimait Paris Match, parce qu'il disait Paris Match sous le manteau en Pologne quand c'était interdit. Donc il nous aimait. En plus, ça l'amusait plus que ce soit une femme qu'un homme. Il y a très peu de femmes à l'époque. Et oui, j'étais absolument... j'étais plus du tout journaliste. J'étais quelqu'un qui pleurait sur la place Saint-Pierre.
Alors justement, on parle aussi d'une mort sereine, d'une lente agonie, mais d'une mort sereine.
Je ne dirais pas mort sereine, je pense qu'il s'est dit que sa mort allait servir à quelque chose, parce que
d'accord,
ça allait montrer qu'on pouvait souffrir dans la dignité, mais je ne sais pas si je dirais sereine. Moi, je me souviens des religieuses qui étaient avec lui, les quatre religieuses, qui étaient avec une coiffe haute, et elles étaient, on ne les voyait pas d'ailleurs, parce qu'elles ne montraient jamais leur visage, sauf sœur Tobiane. Un jour, on s'est retrouvés à Cuba, enfermés dans l'avion du pape ensemble, parce que moi, je voulais les suivre, et là, tout à coup, on a fermé l'avion. Et c'était comme des veuves qui pleuraient. C'était incroyable, incroyable aussi.
Qu'est-ce qui se passe juste après la mort d'un pape, Caroline Pigotti?
Eh bien, on ferme l'appartement. On annonce sa mort, et puis après ça, assez vite, on s'occupe de l'enterrement, évidemment, on laisse quelques jours pour les chefs d'État, parce qu'après tout, le pape est aussi chef d'État, donc il n'est pas juste un chef religieux. Et puis on organise, tout ça est très, très bien fait, mais on organise l'enterrement. Son testament, je ne sais pas si on l'ouvre vraiment à ce moment-là, parce que ses volontés, on les connaît, en tout cas son secrétaire particulier les connaît. Et puis tous les cardinaux commencent à se préparer aussi. Il y a une campagne
pour l'élection.
En fait, oui, le pape a un testament.
Alors, le pape a un testament, et surtout, pardonnez-moi, mais vous m'avez appris quelque chose il y a un instant pendant la coupure, c'est qu'en fait, on a coupé le doigt de Jean-Paul II.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'archiatre.
Je ne savais pas comment le dire, mais...
Le docteur Boutsonnet, qui était son médecin personnel, ce qui était assez amusant, c'est qu'il avait l'âge du pape, à peu près. Donc, vous voyez, il était très sympathique. Et... Donc Renato Buzzonetti, qui était un homme âgé aussi, comme il faut des reliques, il est allé le lendemain avec Monseigneur Marini, qui était le cérémonier du pape, et ils ont coupé un petit bout du doigt du pape.
Qui est devenu une relique,
qui est
et qui aujourd'hui est en Pologne.
Qui est parti en Pologne. Mais c'est incroyable, vous dites qu'on est quand même à une époque où on fait encore des choses comme ça, ça se passait en 2005.
Et tout ça dans les secrets, enfin les appartements secrets évidemment du Vatican. Le protocole de nomination d'un nouveau pape, vous le disiez il y a un instant, en fait les cardinaux, pardon de le dire comme ça, mais ils se tirent la bourre tout de suite?
Il y a deux sortes de cardinaux, il y a les cardinaux ambitieux, généralement, nombre d'entre eux le sont, et puis sont des gens importants dans leur pays la plupart
du temps.
Et donc, chacun se dit « Pourquoi pas moi ?» Et ils commencent à se préparer, puis ils arrivent à Rome, et puis voilà.
Et comment ça se passe alors?
Eh bien, ça se passe qu'ils habitent à Santa Marta, qui était un bâtiment qui avait été, où habite le pape François aujourd'hui, mais qui avait été, c'est l'hôtel des cardinaux quand ils venaient à Rome, et ils se réunissent en conclave, et ça se passe 15 jours après, avant que ça se passe, il y a les journées du pré-conclave, qui s'appellent les congrégations générales, où tous les cardinaux peuvent venir, y compris ceux qui ont dépassé 80 ans, et chacun raconte son projet, ce qu'il pense. Enfin, c'est une journée très ouverte. C'est d'ailleurs là que le pape François s'était fait remarquer, parce qu'il avait été assez brillant.
Après, donc, ils exposent leurs projets.
Ils exposent leurs projets, leurs arguments. Et puis après ça, ne restent que les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans. Ils sont dans la chapelle Sixtine, puis il y a des tours de vote, et à chaque fois on vote.
Et l'âge limite, c'est 80 ans aussi pour être élu ou pas?
Oui, l'âge limite, c'est 80 ans. C'est-à-dire qu'après 80 ans, vous n'êtes plus cardinal votant, donc vous ne pouvez pas être élu, parce qu'on est élu par ses pairs, oui.
En tout cas, après plusieurs jours, je ne sais pas, de conclave, de délibération.
Oui. Hein. Deux jours et demi, ça a été assez vite. Là,
le 19 avril 2005, le Chilien préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, vous le connaissez, c'est Jorge Medina Esteves, annonce l'élection du nouveau pape.
Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem Ratzinger.
Alors, un cardinal Ratzinger, on y reviendra, qui n'était pas très ambitieux, nous avez-vous déjà confié. Juste une question et après on rentrera plus en détail. Comment Joseph Ratzinger devient-il Benoît XVI? C'est lui qui choisit la façon dont on va l'appeler?
Ah oui, ça quand même c'est sa liberté. Le pape choisit le nom qui lui plaît.
Et pourquoi Benoît XVI?
Parce que Saint Benoît et puis...
Donc c'est lui qui dit, voilà, à partir de maintenant, je suis pape et vous m'appellerez ainsi.
Oui, Si okay. Oui, et puis il choisit ses armoiries. Et lui, dans ses armoiries, il y a l'ours allemand. Mmh. Alors, ce qui est amusant, c'est que le pape Benoît XVI aimant beaucoup le côté liturgique et tout ça, avait des habits magnifiques, flamboyants. Mmh. Et moi, je suis allée chez des gens qui font ces habits, la fondation Lise à Rome, parce que ça m'amusait de voir. Et c'est des tissus absolument extraordinaires, rebordés de fils d'or. Enfin, c'est magnifique, il aime ça. C'est le côté, il était...
Un peu fashion addict, quoi.
Oui.
Très bien. Benoît XVI a donc été élu 265e pape de l'histoire à l'issue de 4 tours de scrutin le 19 avril 2005. Il avait 78 ans, donc il était un peu limite, on va dire. Le style de Benoît XVI et les scandales du Vatican, ce sera dans un instant dans Jour J. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous, Jour J, qui revient ce soir sur la décision choc du pape Benoît XVI de renoncer à son poste le 11 février 2013. Le précédent daté du XIIIe siècle, un événement donc qui aura marqué l'histoire de l'Église moderne. Il s'appelait Joseph Ratzinger, il était cardinal, avant de devenir le 265e pape de l'histoire à l'âge de 78 ans, le 19 avril 2005. Caroline Pigozzi, c'est difficile de succéder au tant aimé Jean-Paul II, non ?
Il était de Munich aussi. C'est difficile, oui, c'est difficile. Donc, il faut avoir un style tout à fait différent si on ne veut pas être comparé. Lui est un homme très calme, très aimable, qui a une voix très douce. Il ne peut pas regarder une femme en face. Quand on avait fait un long sujet sur lui à Paris Match, je l'ai suivi pendant 15 jours. Et quand il me voyait regarder ses pieds, j'étais un peu vexée.
Enfin, c'est comme c'était ça. Quoi ? C'est de la timidité ?
La timidité. Et alors, c'était affreux. Je disais au photographe, à Jean-Claude Deutsch, il y avait tous les interrupteurs, il y avait les armoiries. Ces armoiries, parce qu'il adore ça, c'est le côté allemand. C'est pas du snobisme, mais qu'il aime ça. Et alors Jean-Claude disait, non, moi je peux quand même pas photographier les interrupteurs. Je dis, Jean-Claude, tu photographies, on verra ensuite. Donc, il photographiait au téléobjectif.
Les interrupteurs avec les armoiries de Benoît XVI. Revenons avant à Joseph Ratzinger. D'où venait-il et quelle avait été sa vie?
Et c'est intéressant parce qu'il venait d'un milieu allemand. Son père était gendarme, c'est des gens très pieux. Son frère était prêtre aussi. Il était à Regensburg et sa sœur Marie a été sa secrétaire, on peut dire, on peut appeler ça comme ça. Et il vivait avec sa sœur, qui était la personne au monde qu'il aimait le plus. Et quand sa sœur est morte, ça l'a beaucoup déstabilisé. Il a toujours au poignet sa montre. Et elle était, vous savez, un peu comme étaient les vieilles filles très, très respectueuses qui adoraient leurs frères et qui... Les professeurs de médecine avaient aussi autrefois ce genre de personnes autour d'eux, d'une dévotion inouïe. Et puis son frère George aussi, qui est mort il n'y a pas longtemps. C'est la seule fois où il a quitté le Vatican, d'ailleurs, depuis
qu'il n'est plus pape. Pour se rendre à son chevet.
Pour aller à son chevet. Et ils étaient d'une
famille
grande
modeste.
Complicité. Oui, famille modeste, mais lui a fait de grandes études qui sont élevées à travers les études. Et le pape Benoît XVI n'est pas du tout, enfin même quand il était cardinal, n'était pas du tout quelqu'un de conflictuel, parce que c'était quelqu'un de très aimable, très calme. D'ailleurs, le côté médiatique, ça l'a beaucoup dérangé, tout à coup d'avoir la lumière, c'est quelque chose, ça a été très compliqué pour le padre Lombardi, qui était le directeur de la salle de presse. Parce qu'il lui demandait des choses qu'il n'avait pas du tout envie de faire.
Mais justement, c'était d'autant plus compliqué de rentrer dans la lumière, je dirais, qu'il a fallu composer avec un passé qui était entaché d'un enrôlement, il l'a dit d'ailleurs plus tard, de force dans les jeunesses hitlériennes. Parce qu'il a vécu l'Allemagne nazie.
Oui, mais ça, si vous voulez... C'était un sujet douloureux.
Bien sûr.
C'était douloureux pour tout le monde. En plus, si vous voulez, c'est facile dès que vous êtes allemand. Bon.
Alors, il faut préciser que les jeunes de familles modestes étaient enrôlés donc dans les jeunesses hitlériennes et les parents ne payaient pas la scolarité de leurs enfants dans ces cas-là.
Et ils ne pouvaient pas non plus se justifier, vous voyez, parce qu'un pape n'a pas à se justifier. C'était un homme qui avait besoin d'être protégé. Il vivait avec ses 5 mémores d'hommes. Il est avec Mgr Gingewein, qui est son secrétaire particulier, qui est quelqu'un aussi de très aimable, de très souriant. Et d'ailleurs, la chose qui est intéressante maintenant, c'est qu'il est resté son secrétaire particulier. Il est le chef de la maison pontificale, c'est-à-dire le chef du protocole, l'homme qui organise, qui a l'agenda officiel du pape François. Donc c'est lui qui organise le matin les rendez-vous officiels du pape François. Et puis, s'ils ont besoin de communiquer, au passage, parce que c'est quand même un lieu de silence, c'est lui qui passe les messages au pape, au pape émérite.
Pour revenir à Joseph Ratzinger, donc famille modeste, son frère Georges, dont vous parlez, a épousé aussi la vie religieuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que les deux frères, même s'ils ont épousé une vie religieuse, qu'est-ce qui a fait que Joseph Ratzinger est devenu pape?
Je crois que Joseph Ratzinger était un universitaire brillant. Et puis, il est devenu surtout archevêque de Munich. C'est une autre voie, vous voyez.
Mais il n'avait pas l'ambition de devenir pape.
Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout.
Mais donc, on peut obliger un cardinal à devenir pape.
Non, mais si vous êtes élu, vous considérez que
c'est... Donc, c'est une façon, effectivement, de l'obliger, non ?
Vous considérez que c'est la voie de Dieu qui vous a choisi et vous y allez. Et alors, cette phrase idiote, l'appétit vient en mangeant, je ne crois jamais qu'il a eu le goût du pouvoir. Je me souviens, quand il est venu en France, et que le padre Lombard, il lui a dit, il y a quatre questions, il y avait... plein de journalistes, il faut que vous répondiez à quatre questions. Il a dit « Oh là !» et il a levé les yeux au ciel. Padre Lombard, il s'arrachait les cheveux parce que c'est très compliqué. Si vous voulez, d'être avec le pape François, c'est plus facile parce que lui, il aime communiquer.
Il a été élu.
Oui.
Et tout de suite, quel a été un peu son message? Quel a été le style imposé par Benoît XVI? On parle de rigueur.
De la rigueur, mais tout à coup, il est tombé dans la lumière. Donc, il a fallu qu'il s'explique, il a fallu qu'il se laisse photographier. Enfin, des choses auxquelles il n'était pas
du tout habitué. Oui, qui se prête à un jeu médiatique.
Oui, je me souviens que moi, j'avais traversé la place Saint-Pierre pour courir derrière lui quand il était cardinal, parce que je voulais lui poser une ou deux questions. Je lui ai demandé si on avait eu une chance un jour d'avoir un pape africain, parce qu'on en parlait beaucoup à l'époque. Et il a été très poli, très gentil, et il a regardé sa montre, il m'a dit « c'est pas l'heure de répondre à un journaliste
».
Mi scusi tanto. Et puis il est parti avec un grand sourire, très très aimable, mais enfin je suis restée avec mon stylo en l'air.
Le style Benoît XVI, c'est donc de la rigueur, de la distance.
De la distance, l'étude des textes. Il parle en plus cinq ou six langues, il parle le latin, le grec ancien, enfin il étudie, il connaît tout ça très très bien. Et donc sa joie, c'est des joies intellectuelles.
Il a beaucoup voyagé ?
Non, il n'a pas tellement voyagé.
Il a moins voyagé que Jean-Paul II, son prédécesseur.
Oui, bien sûr. Si, il a voyagé, mais enfin, rien à voir. Je vais vous dire aussi une autre chose, c'est qu'une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles il a annoncé, c'est qu'il devait aller en juillet, 2013, aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio. L'idée de faire 11 heures d'avion, d'aller les Journées mondiales de la jeunesse, vous êtes pratiquement avec des jeunes avec qui vous devez pratiquement danser avec eux et tout ça...
C'est la bamboche, quoi.
C'était à 78 ans, c'était au-dessus de ses forces. Et ça lui a fait peur. Ça a créé chez lui une espèce de panique, disant « je ne vais pas en plus faire ça ». Et je crois que ça a beaucoup contribué à ses décisions.
C'était un pape solitaire ou un pape très entouré? Le pape, par définition, est entouré. Mais ce que vous nous racontez, c'est aussi un homme qui aimait la retraite.
Non, ce n'était pas du tout un pape entouré. C'est un pape. Les papes se recréent souvent, pas celui-ci qui est extrêmement méfiant, mais les papes se recréent une famille. Mmh. La famille, c'est les religieuses qui vivent avec eux. C'est le secrétaire particulier. Voilà, il faut se créer un petit noyau avec des gens avec qui on parle, avec qui on dîne, avec qui on déjeune. Autrement, vous parlez à votre stylo.
Ou à Dieu.
Ou à Dieu, mais... Et que vous ne répondez pas toute la journée.
8 ans de pontificat avant que Benoît XVI tire donc sa révérence. Il invoque une très grande fatigue, il a 85 ans à l'époque. Mais on le dit aussi épuisé, éprouvé par les affaires et les scandales qui ont émaillé son pontificat. Pédophilie et fuite de documents secrets du Vatican, c'est tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. On vous emmène aujourd'hui au cœur du Vatican où les grandes décisions se prennent. Caroline Pigozzi, vous êtes notre invitée ce soir pour parler du pontificat donc de Benoît XVI avant sa renonciation, c'est ainsi qu'on le dit, en 2013. Ça n'était pas tout repos quand même, ce pontificat. Les scandales sont arrivés en escadrille. Est-ce qu'ils ont joué, selon
ça,
vous?
C'est une expression de Jacques Chirac.
Absolument, un hommage à Jacques Chirac. Est-ce qu'ils ont joué, mais plus poli, parce que lui c'était les emmerdes qui volent en escadrille. Est-ce que justement tous ces scandales, selon vous, ont joué aussi un grand rôle dans son retrait?
Ah oui, immense. Il aurait, je crois, souhaité que le cardinal Berton, et c'était son cardinal secrétaire d'État, renonce. Enfin, lui, il n'avait pas renoncé, il avait à démissionner, parce qu'après tout, un cardinal peut démissionner. Il l'a espéré, mais...
Mais pourquoi?
Parce qu'il était son premier ministre et qu'il était très tolérant et que lui, je veux dire, il ne s'est pas beaucoup battu contre tous les scandales.
D'accord.
Il était l'archevêque de Gênes, grand spécialiste de football. Un jour, j'avais voulu l'interviewer, il m'a demandé si c'était sur le football auquel je ne connais rien ou sur sa fonction. C'est un salésien, génois-turinois. Et bon, lui, il aime le pouvoir et disons qu'il a un peu fermé les yeux sur beaucoup de choses. Son carnet de secrétaire d'État, c'est-à-dire son premier ministre.
Ce qui n'était pas le cas de Benoît XVI.
Non,
lui, il ne fermait pas les yeux.
Pas du tout. Et il a espéré que le cardinal Bertone allait partir en réalité. Mais quand il n'est pas parti, il s'est dit, si ce n'est pas lui, c'est moi.
C'est
et
ça.
Finalement, il était au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'il ne, je crois qu'il ne pouvait plus pratiquement mettre un pied devant l'autre le matin.
En 2010, scandale pédophile en Allemagne, écoutez.
En plein scandale sexuel, Benoît XVI a reçu aujourd'hui au Vatican le président de la Conférence des évêques d'Allemagne.
Plus de 170 élèves d'établissements catholiques allemands ont déclaré récemment avoir été victimes de violences sexuelles ou de maltraitances. Certaines de ces plaintes concernent une chorale prestigieuse dirigée pendant 30 ans par le frère du pape George Ratzinger.
Alors, vous l'avez entendu, ça c'est en 2010, chorale du frère du pape George Ratzinger. Comment Benoît XVI est-ce qu'il a géré ce genre de crise ?
Ben, il ne réussissait pas. Chorale à Regensburg, justement, parce qu'il était chef de chœur, le frère. Il ne savait pas comment faire, parce qu'il a dit pédophilie, tolérance zéro. Mais une fois que vous avez dit ça et que vous éclatez en pleine figure des trucs, quand ça commence, ça ne s'arrête jamais. Et il avait les larmes aux yeux, il ne savait pas comment faire.
Parce qu'on se dit quand même qu'à un moment donné, ses prédécesseurs étaient forcément au courant.
Mais vous savez, on a complètement changé d'époque. Jean-Paul II, évidemment qu'il y avait des histoires, sauf que Jean-Paul II, c'est le pape qui a fait tomber le mur de Berlin, c'est autre chose. C'est 82 voyages. On ne parlait pas de ces choses-là. C'était un autre temps, tout ça restait très anonyme. Et c'est tout. Donc, si vous voulez, on a changé d'époque et maintenant, on peut tout dire. Il y a les réseaux sociaux.
Oui,
donc,
il y a eu la libération de la parole.
Je crois qu'on juge avec notre mentalité la modernité d'aujourd'hui, ce qui se passait il y a finalement 30 ans où les choses n'étaient pas les mêmes, où on étouffait.
Alors là, Benoît XVI, il doit s'emparer évidemment de cette question. Il faut préciser qu'en France, c'était en 2016 avec le scandale du père Prénat qui va éclabousser l'Église et le cardinal Barbarin à Lyon. On a évoqué d'ailleurs la question du célibat des prêtres en réponse au problème donc de la pédophilie, ce qui n'est pas du tout une réponse, mais enfin bon, passons. Quelle était la position de Benoît XVI à ce sujet sur le célibat des prêtres ?
Benoît XVI, il a un peu étudié la question et il dit que dans les autres religions, il y a eu aussi beaucoup d'histoires de pédophilie et chez les protestants, on peut se marier chez les orthodoxes aussi, notamment, je crois qu'au Mont Athos, il y a beaucoup de... Et que, en plus, si vous voulez, le problème de l'Église catholique, c'est le mariage des prêtres. Alors, les prêtres se marient, chaque naissance est une joie, ils ont sept enfants, et le jour où ils ont sept enfants, est-ce qu'ils s'occupent vraiment de leur église, de l'église du village ou de l'église de leur ville ? Il y a aussi un problème...
De disponibilité au travail.
Oui, je crois qu'il y a aussi cette question-là, on n'ose pas le dire. Mais
Benoît XVI, il est sonné par ces annonces.
Il est bouleversé, c'est à peu près ce qui lui donne aussi, je crois, une dépression. Enfin,
parce qu'on lui demande de rendre des comptes à ce moment-là.
Oui, mais c'est pas par... Vous savez, c'est un intellectuel qui a toujours été dans ses livres avec un bonheur fou. Il a enseigné à l'université de Tübingen, il a fait des choses magnifiques comme universitaire. Il allait à Rome quand il fallait y aller, quand il était... Et finalement, archevêque de Munich, et tout à coup, il se trouve confronté à des problèmes qu'il n'a jamais eu. Et surtout, c'est un silencieux. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui
pose... communique.
Et tout lui tombe sur. C'est celle qui lui tombe sur la tête et il sait pas comment faire. Et il s'est dit, je sais pas, ou je meurs d'une crise cardiaque, quoi. Enfin, ou je meurs sur la scène comme Molière, où j'ai la dignité de me retirer, et c'est ce qu'il a préféré faire.
D'autant que deux ans plus tard, en mai 2012, un autre scandale au Vatican.
Les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est bien connu, mais les secrets du Vatican se retrouvent étalés sur la place de Saint-Pierre. Deux proches du pape Benoît XVI sont dans l'œil du cyclone.
Alors là, on parle de l'affaire Vatilix, des documents qui auraient fuité et qui ont fait l'objet d'un livre. Alors là, c'est le gros scandale.
Mais Paolo Gabrielli, son majordome, qui est mort depuis d'ailleurs, et que, quand il s'est arrivé, bon, il a été condamné et tout ça, sauf que pour avoir un œil sur lui, on l'a mis à Bambin Gesù, à l'hôpital des enfants, pour le surveiller, parce que comme il savait beaucoup de choses, il fallait l'avoir sous la main. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort il y a quelques mois. Mais oui, c'est-à-dire que lui, il était tellement désespéré, finalement, parce qu'il a, je ne crois pas du tout qu'il l'a fait pour nuire au pape, il l'a fait pour, vous voyez, tout à fait avec une autre mentalité, sauf que quand vous vivez avec le pape, tout à coup, vous vivez avec la personne la plus...
Enfin, c'est quand même scandale de corruption, c'est quand même...
Je ne crois pas du tout qu'il ait touché de l'argent, lui. Je crois qu'il n'était pas assez malin pour ça.
Ah, donc, il n'était vraiment pas futé, parce qu'ils sont sortis quand même, oui, suite à l'affaire Vatilix.
Oui, l'affaire Vatilix est sortie, tout ça est sorti, et il l'a donné... Et je ne crois même pas que lui ait touché de l'argent, vous voyez, j'en sais rien, parce que je n'étais pas dans le portefeuille de Paolo Gabrielli, mais même pas. Si vous voulez, il a fait le chevalier blanc. Alors autour, les gens ont touché de l'argent, mais lui, c'était une sorte de « je veux défendre mon patron ». Et mon patron, il était tellement, je vous dis, paniqué qu'il ne pouvait plus aller dans sa salle de bain. Il disait « est-ce que si je me lave les dents, il y a un micro dans ma brosse à dents ?» là... Et c'était au-dessus de ses forces. Et je vous dis, quand il a quitté, quand il a renoncé, qu'il est parti pour Castel Gandolfo, qu'il y a ce film magnifique où on le voit partir dans l'hélicoptère de l'aéronavale italienne, et où on voit, quand il quitte le Vatican, on voit toute sa suite, les gens pleurent, ils ont les larmes aux yeux. Moi, je les connaissais tous et je regardais. Et il est parti... Et Mgr Gershwin s'est dit, mais il va en mourir, il va arriver, il va s'effondrer.
Oui, ce que vous nous racontez, c'est l'histoire d'un pape qui n'a pas pu faire face, qui n'a pas réussi à faire face aux différentes affaires d'État qui se sont présentées à lui et aux différents scandales. Parce que là, on parle d'une église corrompue, on parle toujours de scandales pédophiles étouffés. Enfin, l'église, elle ne devient pas très jolie, là, quand même.
Il était un homme, un intellectuel très préservé. Ouais, oui. Et comme il n'avait pas tellement le goût du pouvoir, quand il était archevêque de Munich, chacun faisait ce qu'il avait à faire, mais il ne régnait pas sur...
Je comprends. On va prendre des nouvelles de Benoît XVI tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J se poursuit sur RTL. On vient de quitter le pape Benoît XVI, épuisé par son pontificat et sa gestion des crises qui ont secoué l'Église. Même si quand on vous écoute aussi, Caroline Pigozzi, on se rend compte qu'il n'a pas su les gérer. Il n'a pas pu les gérer, ces fameuses crises. Donc il les a laissées un peu en héritage pour son successeur. On y reviendra. Le 11 février 2013, il déclare renoncer, se retirer. Il va quitter le Vatican en hélico. C'est ce que vous venez de nous dire. C'est quand même moderne comme sortie. À Caroline Pigozzi.
Je vous dis, la télévision, il faut que les gens du monde entier puissent le voir. C'est une image magnifique, c'est une image forte, mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même eu quelques personnes qui étaient au courant. Et quand il a pris l'hélicoptère, c'est 15 jours après, c'est quand il est vraiment parti. Le jour où il a renoncé, moi j'ai fait le calcul, parce que ce qui était important, c'est de comprendre combien de personnes le savaient. En fait, il y avait son premier ministre, il y avait Padre Lombardi qui était le directeur de la communication, il y avait son secrétaire particulier, je pense qu'il y avait son frère, il y avait le directeur de l'Osservatore Romano et il y avait le substitut, c'est-à-dire le secrétaire général, on appellerait ça dans la vie civile, parce qu'il fallait qu'il prépare la maison où il allait habiter.
Et donc il est parti où ?
Justement, il est resté au Vatican encore 15 jours et après ça, il est parti pour Castel Gandolfo parce que la maison des sœurs, qui étaient des sœurs cloîtrées, qui le petit monastère, qui Mater Ecclesiae, qui habite maintenant, n'était pas prêt. Mais pour vous dire que comme on l'a préparé, qu'il y avait des travaux, ça voulait dire que le substitut était au courant parce que les sœurs partaient.
Oui, forcément.
8 personnes, mais c'est vous dire que c'est quand même un monde de silence. 7 ou 8 personnes, personne n'a parlé. C'est une réalité. On chuchote au Vatican et puis on se tait.
Et comment va-t-il aujourd'hui ?
Il va bien. Il est heureux. Oui. Il joue du piano.
Il a 94 ans.
Oui, alors il joue du piano. Il ne peut pas, jouer de nouvelles partitions parce que comme il voit très mal, il ne peut pas en fait, les décrypter. Il écoute de la musique. Il prie beaucoup. Il a une unité médicalisée à côté de sa chambre.
On dit qu'il ne parle plus. Vous parliez de chuchoter, on dit qu'on n'entend plus, on entend juste un souffle.
Il y a une petite voix, je crois que c'est pas du tout. Vous savez, au Vatican, les seuls animaux qu'il y a sont des chats, parce que les chats, ils se nourrissent partout. Et quand il voit un chat, il est content parce qu'il aime les chats. Et c'est un homme serein, et il a retrouvé, c'est extraordinaire d'ailleurs de le voir, parce qu'il a retrouvé comme ça, on sent qu'il est finalement est assez content.
En début d'émission, vous nous expliquiez que lorsqu'il était épuisé par tout cela avant sa renonciation, vous vous disiez qu'il lui restait peut-être peu de temps à vivre avant qu'il s'éteigne, et aujourd'hui, vous pensez qu'il peut être centenaire ?
Je pense qu'il a repris des forces dans la prière et l'écriture. Je pense que c'est un vrai intellectuel. C'est pas... Et donc, il se dit, le jour où je serai appelé par Dieu, je serai appelé, mais il a retrouvé une sérénité, et il est entouré, finalement, de peu de gens, mais de gens sur lesquels il peut compter. Le décor est magnifique, c'est silencieux, c'est pas un homme qui parle. Et je crois qu'il est vraiment heureux. Je vous dis, quand je l'ai vu, j'ai failli bondir et aller le voir. Je me suis dit non, c'est un pape à la fois. Quand on est vaticaniste, il ne faut pas faire de bêtises parce que c'est un univers très violent quand même, le Vatican.
Est-ce qu'il est consulté par son successeur, le pape François, ou pas du tout ?
J'appellerais pas ça consulter. Je pense que de temps en temps, il se voit et qu'au fond, il est un très bon théologien et que quand le pape François a des doutes sur certains points, évidemment, il peut tout lire parce que tout se lit. Il est content d'entendre les arguments du pape Benoît XVI.
D'accord, donc il communique.
Il communique, il se voit de temps en temps, tout ça très discrètement, bien sûr.
Voilà, mais il n'a pas fermé la porte à cette ancienne vie, quelque part.
Pas du tout, mais il n'est pas dans la rancune, il n'est pas dans la rage, il est dans le pardon, c'est quelque chose.
Vous voyez, on évoque en ce moment la démission possible du pape François. Ça fait partie des rumeurs qui circulent.
Moi, ça me fait beaucoup rire, parce que je n'y crois pas du tout, depuis le début, parce que je pense que il y a tout un mouvement qui est contre lui, notamment beaucoup de journalistes et d'éditorialistes italiens qui se disent on nous a volé notre pape. Après tout, ça va, on a eu un Polonais, après ça on a un Allemand, après ça on a un Argentin, ça va comme ça. Que c'est très facile d'écrire n'importe quoi parce que effectivement,
on ne sait rien.
Ça, y a pas, non, mais il n'y a pas de communiqué qui
oui,
diront
ça,
le contraire.
On sait rien.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le pape lui-même, dans une interview, a dit non, je ne renoncerait pas. Donc, quand un pape dit une chose, il faut y croire parce qu'autrement, c'est un mensonge. D'autre part, je pense que les jésuites ont le goût du pouvoir. L'histoire de France et l'histoire du monde nous l'a prouvé, que quand on a le pouvoir entre les mains, qu'on est un jésuite extrêmement volontaire, qui a du caractère et qui est très méfiant, parce que ce pape est très méfiant. Je vais finir sur une petite anecdote, si vous le permettez. Quand j'avais fait l'interview du pape, tout le monde avait volé les photos, parce que maintenant, tout le monde trame les photos, sauf quelques journaux. Je suis allé voir Olivier Royan, notre directeur à l'époque. Je lui ai dit, écoutez, Olivier, est-ce que vous ne croyez pas que l'argent des photos, on ne va pas le toucher, qu'il y a de l'argent sur le dos du pape, on pourrait peut-être lui donner. Il m'a dit, oui, oui, c'est une très bonne idée. Ça faisait une petite somme, ça faisait 8000 euros. Je suis parti pour Rome avec mon chèque et j'ai dit au pape, très
de la part de Paris Match.
De la part de Paris Match. C'était les photos du pape que nous avions fait, que des journaux avaient acheté. Je dis, très sympa, voilà, c'est l'argent des photos, on voudrait vous le donner. Mais à quelle œuvre, à qui voulez-vous qu'on le mette? Moi, j'ai juste mis la somme. Il dit, vous me le mettez à mon nom parce que moi, je veux tout contrôler ici. Je ne voudrais pas que quelqu'un parte en vacances avec ce chèque. Tout ça pour dire que ce pape est extrêmement méfiant. Donc, j'ai fait le chèque à son nom. Et puis, comme je suis un peu curieuse, j'ai appelé l'administration.
Pour savoir s'il l'avait encaissé.
Combien de temps après? Le surlendemain.
Donc, c'est un pape non seulement méfiant, mais qui gère bien les affaires aussi.
Qui essaye, mais là, c'est compliqué. Vous savez, c'est très, très compliqué.
Et il a hérité, évidemment, de beaucoup de choses aussi, qui n'ont pas été gérées par
l'organisation difficile,
par
pas transparente du tout, parce que ce n'est pas le but.
Et un monde violent, nous avez-vous dit. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes grand reporter à Paris Match et on va noter également la sortie de votre nouveau livre. Ce sera le 18 novembre prochain. Pourquoi eux? Ils ont fait notre époque aux éditions Plon. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous de nous avoir suivis. C'était passionnant pour changer. On se retrouve lundi dès 20h. Nous parlerons du jour où Lance Armstrong avouait s'être dopé. C'était le 17 janvier 2013. Bonne soirée sur RTL et à lundi.